Chapitre 19. Maddy et Zélie.
Mademoiselle Roussel, demanda Hercule Poirot.
Il inclina le buste.
Mademoiselle Roussel tendit la main.
La cinquantaine, se dit Poirot, une femme assez volontaire, sachant mener sa barque, intelligente, cérébrale, satisfaite, songea-t-il, de l'existence qu'elle avait menée, goûtant les plaisirs et endurant les chagrins que la vie occasionne.
« Votre nom ne m'est pas inconnu, » sourit son interlocutrice. « Vous avez des amis, vous savez, aussi bien en Suisse qu'en France.
J'ignore ce que je peux au juste faire pour vous.
Oh, je sais que vous l'indiquiez dans la lettre que vous m'avez adressée. Il s'agit d'une vieille histoire, n'est-ce pas? D'événements du passé? Ou plus exactement de précisions que vous souhaitez à propos de ces événements qui se sont déroulés voilà des années? Mais asseyez-vous. Oui, oui, ce fauteuil-là est assez confortable, je crois. Il y a des petits fours et une carafe sur la table. »
Mademoiselle Roussel se montrait calmement accueillante, affable, sans ostentation.
« Vous avez autrefois été préceptrice dans une famille anglaise, » commença Poirot. « Les Preston Grey, ou plutôt les Ravenscroft. Peut-être ne vous souvenez-vous plus guère d'eux à présent. »
« Mais bien sûr que si. À mon âge, on oublie ce qu'il vous est advenu la veille, mais pas ce qui vous est arrivé quand vous étiez jeune, vous savez. »
Les Ravenscroft. Il y avait une fillette et un garçonnet, de gentils enfants. Leur père est par la suite devenu général.
Madame Ravenscroft avait également une sœur.
Ah oui, je me rappelle. Mais elle n'était pas là quand je suis arrivé dans la famille. Il me semble qu'elle était fragile. Sa santé laissait à désirer. Elle se faisait soigner je ne sais où.
Vous souvenez-vous des prénoms des deux sœurs Preston Grey?
« Je crois que Madame Ravenscroft s'appelait Margaret. L'autre, je n'en suis plus très sûr. »«
Dorothea. »«
Ah oui. »
Un prénom que je n'ai pas rencontré souvent. Mais elles se donnaient toutes deux des diminutifs, Molly et Dolly. C'étaient de vraies jumelles, vous savez, d'une ressemblance étonnante, et toutes deux de très jolies jeunes femmes.
Elles s'entendaient bien?
Oui, elles s'adoraient.
Quant aux enfants, le garçon s'appelait Edward. C'était un enfant malicieux, mais adorable. Et la fillette avait un prénom tiré de « Comme il vous plaira » de Shakespeare. Rosalinde ou Célia. Oui, c'était Célia.
Je m'entendais bien avec eux.
Et eux s'entendaient bien avec vous, ai-je cru comprendre. Ils adoraient jouer avec vous, et vous jouiez très gentiment avec eux.
J'ai toujours aimé les enfants, sourit Mademoiselle Roussel.
Ils vous appelaient Maddy, je crois.
L'hôtesse de Poirot se mit à rire.
« Ah, voilà un nom que j'ai plaisir à entendre. Il me rappelle tant de souvenirs. »«
Avez-vous connu un garçon nommé Desmond ?»«
Desmond Burton Cox ?»«
Ah, oui. Je crois qu'il habitait la maison voisine, ou quasiment voisine. Nous avions plusieurs voisins, et les enfants jouaient souvent ensemble. Lui s'appelait Desmond. Oui, je me rappelle. »«
Vous êtes restée là-bas longtemps, mademoiselle ?»«
Non. » Je n'y ai passé que 3 ou 4 ans, tout au plus.
Ensuite, on m'a rappelé ici. Ma mère était très malade. Il fallait que je rentre pour m'occuper d'elle, même si je savais que ça ne durait sans doute pas très longtemps.
Je ne me trompais pas.
Elle est morte 1 an et demi, 2 ans au plus après mon retour. Par la suite, j'ai fondé un petit pensionnat ici, où je prenais des filles un peu plus âgées, qui voulaient, entre autres choses, étudier les langues. Je ne suis pas retourné en Angleterre, mais pendant 1 an ou 2, je suis resté en contact avec la famille.
Les deux enfants m'envoyaient généralement une carte de vœux au moment de Noël.
Le général Ravenscroft et sa femme vous donnaient-ils l'impression d'être un couple heureux?
Très heureux, oui. Ils raffolaient de leurs enfants.
Formaient-ils un couple bien assorti?
Oui, à mes yeux, ils avaient toutes les qualités nécessaires pour que leur mariage soit une réussite.
Vous disiez que Lady Ravenscroft était très attachée à sa sœur jumelle. Cet attachement était-il réciproque?
Ma foi, je n'ai guère eu l'occasion d'en juger.
À franchement parler, il me semblait que la sœur, Dolly, comme on l'appelait, était véritablement un cas psychiatrique. Une ou deux fois, je l'ai vue se comporter de façon pour le moins étrange. C'était une nature jalouse, me semble-t-il, et j'ai cru comprendre qu'à un moment donné, elle avait été fiancée ou sur le point de l'être avec le général Ravenscroft.
«
Pour autant que j'ai pu le savoir, lui s'était d'abord épris d'elle, mais par la suite, son sentiment s'était reporté sur l'autre sœur. Ce qui fut une bonne chose, je crois, car Molly Ravenscroft était une femme très équilibrée et tout à fait charmante. Quant à Dolly, je me disais tantôt qu'elle adorait sa sœur, tantôt qu'elle la détestait. Il en allait d'ailleurs de même pour tout ce qui l'entourait. Sa jalousie aidant, elle en venait parfois à décider qu'on témoignait trop d'affection aux enfants, et elle allait jusqu'à prendre sur elle de, en quelque sorte, de les en punir. Il y a quelqu'un qui pourrait vous parler de tout cela bien mieux que moi. C'est Mademoiselle Moura. Elle habite Lausanne. Elle est entrée chez les Ravenscroft environ un an et demi après que j'ai dû les quitter. Elle y a passé quelques années. Par la suite, il me semble qu'elle y est retournée en tant que dame de compagnie de Lady Ravenscroft, pendant que Célia poursuivait sa scolarité à l'étranger. J'ai la ferme intention d'aller la voir. J'ai son adresse, déclara Poirot. Elle est au courant de quantité de détails que j'ignore, et c'est quelqu'un de charmant, à qui on peut faire toute confiance. Ce drame qui est arrivé par la suite, ça a été terrible. Si quelqu'un sait ce qui le déclencha, c'est bien Mademoiselle Moura. Mais elle est très discrète. Elle ne m'en a jamais soufflé mot. J'ignore si elle acceptera de vous en parler. Peut-être que oui, peut-être que non. Poirot resta quelques instants à dévisager Mademoiselle Moura. S'il avait été impressionné par Mademoiselle Roussel, il le fut également par la femme qui se tenait devant lui, prête à le faire entrer. Elle n'était pas aussi imposante, beaucoup plus jeune, d'une dizaine d'années au moins, se dit-il, et impressionnante à d'autres égards. Elle était vive, encore séduisante, avec un regard bienveillant, voire chaleureux, mais sans douceur exagérée, et qui devait percer à jour son interlocuteur quel qu'il fût. « Voilà quelqu'un de très étonnant, » se dit Hercule Poirot. « Je suis Hercule Poirot, mademoiselle. Je sais, j'attendais votre venue pour aujourd'hui ou demain. « Ah, vous avez reçu ma lettre ? Non, elle est certainement encore à la poste. Notre service postal est un peu aléatoire. Elle n'est pas arrivée, non. En revanche, j'ai reçu une lettre de quelqu'un d'autre. »« De Célia Ravenscroft ? Non, mais elle émanait de quelqu'un qui entretient un contact étroit avec Célia. Un garçon ou un jeune homme, comme on veut, qui s'appelle Desmond Burton Cox. Il m'a informé de votre arrivée. »« Ah, je vois. C'est un garçon intelligent et qui n'aime pas perdre de temps. » « C'est lui qui m'a persuadé de venir vous voir de toute urgence. »« C'est ce que j'ai cru comprendre. Des problèmes se présentent, me semble-t-il. Des problèmes qu'il tient à résoudre, ainsi que Célia. Il pense que vous pourrez les aider ?»« Oui, il pense aussi que vous pourrez m'aider, moi. »« Ils sont amoureux l'un de l'autre et veulent se marier. »« Voilà. Seulement, on leur met des bâtons dans les roues. »« Ah, la mère de Desmond, j'imagine. C'est ce qu'il me laisse entendre. » Il y a eu dans la vie de Célia des événements qui suscitent chez la mère des a priori à l'encontre d'un mariage rapide de son fils avec cette jeune fille. Ah, le double suicide des parents, bien sûr. Oui, la marraine de Célia a été abordée par la mère de Desmond, qui lui a demandé de se renseigner auprès de Célia des circonstances précises dans lesquelles le suicide en question s'était déroulé. « Ça n'a aucun sens, » répliqua Mademoiselle Moura. Elle fit un geste de la main. « Asseyez-vous, faites, je vous en prie, je pense que cette conversation va nous prendre un petit moment. » Non, Célia ne pouvait pas expliquer à sa marraine, Madame Ariane Oliver, la romancière, c'est bien cela ? Oui, je me rappelle. Célia ne pouvait lui donner ses renseignements, étant donné qu'elle n'en a jamais eu connaissance elle-même. Elle n'était pas sur place quand le drame s'est produit, et personne ne lui en a rien raconté, c'est bien cela. Oui, c'est bien cela. On a jugé qu'il valait mieux l'éviter. Et vous approuvez cette décision ? Il est très difficile d'avoir une opinion catégorique sur la question. Très difficile. Des années se sont écoulées depuis lors, bon nombre d'années, et je peine toujours à émettre un avis tranché. Pour autant que je le sache, Célia ne s'est jamais réellement souciée de ce qui a provoqué la mort de ses parents. Souciée, j'entends, du pourquoi et du comment. Elle a accepté cette idée de double suicide comme elle aurait accepté un accident de voiture ou d'avion. Et cela d'autant plus naturellement qu'outre le fait qu'elle n'était pas en Angleterre au moment de cette double mort, elle n'y est pas non plus retournée après cela pendant un certain nombre d'années, puisqu'elle est restée ici, en Suisse, au sein d'un pensionnat. Pensionnat que, de fait, vous dirigiez, Mademoiselle Moura. C'est tout à fait exact. Je n'ai pris ma retraite que tout récemment. C'est une de mes collègues qui continue désormais. Cela dit, on m'avait demandé de trouver à Célia, dont je m'étais déjà occupé enfant, un bon endroit où poursuivre ses études, quantité de jeunes filles venant en Suisse dans ce but. J'aurais pu recommander plusieurs établissements. Sur le moment, je l'ai pris dans le mien. Et Célia ne vous a posé aucune question, n'a réclamé aucune information. Non, elle était déjà pensionnaire ici, avant le drame, voyez-vous. Ah, je n'avais pas véritablement compris cela. Célia est arrivée dans mon établissement quelques semaines avant ce dramatique épisode. J'étais moi-même absente à ce moment-là. J'étais encore auprès du général et de Lady Ravenscroft. Je m'occupais de Lady Ravenscroft. Je lui tenais lieu de dame de compagnie à elle plutôt que de préceptrice à Célia, qui était encore pensionnaire en Angleterre à ce moment-là. Il a été subitement décidé que Célia viendrait en Suisse et y finirait sa scolarité. Lady Ravenscroft n'était alors pas en bonne santé, n'est-ce pas ? Non, mais rien de très grave, rien d'aussi grave qu'elle-même l'avait craint à un moment donné. Vous êtes resté avec elle. J'avais une sœur habitant Lausanne qui a accueilli Célia à son arrivée et l'a installée dans l'établissement, lequel était prévu pour 15 ou 16 jeunes filles seulement, et où elle devait commencer ses études en attendant mon retour. Je suis moi-même revenu environ 3 ou 4 semaines plus tard. Vous étiez donc à Overcliff au moment où le drame s'est produit. En effet. Le général et Lady Ravenscroft sont partis se promener comme à l'accoutumée. Ils sont sortis et ne sont pas revenus. On les a retrouvés morts, abattus par balles. L'arme se trouvait à côté d'eux. C'était un revolver appartenant au général Ravenscroft qui le rangeait toujours dans un tiroir dans son bureau. On releva dessus leurs empreintes à tous les deux. Aucun indice ne révélait qui avait eu l'arme en main le dernier. L'hypothèse qui s'imposait à l'évidence était celle du double suicide. Vous n'avez eu aucune raison d'en douter ?
La police n'en a eu aucune, à ce qu'il me semble.
Ah, fit Poirot.
Je vous demande pardon ? Releva Mademoiselle Moura.
Rien, rien. Une simple réflexion que je me fais.
Poirot regarda son interlocutrice. Cheveux châtains à peine striés de gris, plis fermes de la bouche, yeux gris, un visage qui ne laissait pas transparaître d'émotion. Elle se dominait totalement.
Vous ne pouvez donc rien me dire de plus ?
Je crains que non. Cela remonte à bien longtemps.
Vous gardez un souvenir assez précis de cette période.
Oui. On ne peut pas oublier complètement un événement aussi triste.
Et vous étiez d'avis qu'il ne fallait rien dire de plus à Célia sur ce qui avait déclenché le dit événement ?
Ne vous ai-je pas dit à l'instant que je n'en savais pas plus à ce sujet ?
Vous étiez déjà sur place, vous résidiez à Overcliff depuis quelque temps au moment du drame, n'est-ce pas ? 4 ou 5 semaines, 6 peut-être ?
Plus que ça, en fait. J'avais été la préceptrice de Célia par le passé, mais cette fois, après qu'elle fut partie pour le pensionnat, j'étais revenu afin d'aider Lady Ravenscroft.
La sœur de cette dernière vivait chez les Ravenscroft à la même époque, non ?
Oui, elle avait passé quelque temps à l'hôpital pour y recevoir des soins spécifiques. Son état s'était beaucoup amélioré, si bien que les responsables avaient eu l'impression, les responsables médicaux j'entends, qu'elle aurait tout intérêt à mener une vie normale au milieu de ses proches dans une atmosphère familiale. Célia étant partie en pension, le moment semblait bien choisi pour que Lady Ravenscroft invite sa sœur chez elle.
Elles s'entendaient bien, ces deux sœurs ?
« C'est difficile à dire, » répondit Mademoiselle Moura. Elle fronça les sourcils.
« Je me le demande, vous savez. Je me le suis bien souvent demandé depuis, et sur le moment aussi d'ailleurs. Elles étaient jumelles, voyez-vous. Il existait un lien entre elles deux, un lien de dépendance et d'amour réciproque, et à bien des égards, elles se ressemblaient beaucoup. À d'autres égards, cependant, elles différaient beaucoup.
Qu'est-ce à dire ?
J'aurais plaisir à savoir ce que vous entendez par là.
Oh, ça n'a rien à voir avec le drame, rien de tel. Mais il y avait indéniablement une faille, si je puis dire, une faille physique ou mentale, quel que soit le terme qu'on emploie.
Or, de nos jours, certaines personnes sont d'avis que tous les déséquilibres mentaux ont une cause physique. Je crois qu'on admet très bien au sein du corps médical qu'à la naissance, il existe déjà un lien très fort entre les vrais jumeaux. Une ressemblance très marquée de leur tempérament, qui veut que même s'ils sont séparés, s'ils grandissent dans des environnements différents, les mêmes choses leur arriveront en même temps dans la vie. ils suivront les mêmes voies. Certains des cas qu'on cite en exemple dans le milieu médical semblent tout à fait extraordinaires. Deux sœurs, l'une vivant en Europe, mettons en France, et l'autre en Angleterre, prendront à peu près au même moment un chien de même race. Elles épouseront des hommes qui se ressemblent étonnamment. Elles mettront toutes deux un enfant au monde, par exemple à quelque chose comme un mois d'intervalle. Tout se passe comme si elles devaient se conformer à un déroulement préétabli où qu'elles se trouvent, et sans savoir ce que fait l'autre. Mais on voit aussi le contraire, une sorte de répulsion, de haine presque, qui pousse l'une des sœurs à s'écarter de l'autre, ou l'un des frères à rejeter l'autre comme pour chercher à se défaire de la similitude, de la ressemblance, des connaissances partagées, des choses qu'ils ont en commun. Et cela peut avoir de très étranges conséquences. « Je sais, acquiesça Poirot, j'ai entendu parler de cela. Je l'ai constaté une fois ou deux. L'amour se mue très facilement en haine. Il est plus facile de détester qui on a aimé que de lui être indifférent. Je l'ai constaté non pas une fois, mais plusieurs. La sœur de Lady Ravenscroft lui ressemblait beaucoup. À mon avis, elle lui ressemblait encore beaucoup de par son aspect physique, mais si je peux me permettre, l'expression de sa physionomie était très différente. Elle vivait dans un état de tension nerveuse que Lady Ravenscroft ne connaissait absolument pas. Elle éprouvait une profonde aversion à l'égard des enfants. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être avait-elle fait une fausse couche dans sa jeunesse. Peut-être avait-elle désiré un enfant sans jamais en avoir. Toujours est-il qu'elle manifestait une sorte de rancune vis-à-vis des enfants. Une répugnance qui donna lieu à un ou deux épisodes graves, n'est-ce pas ? Enchaîna Poirot. Quelqu'un vous en a parlé ? J'ai entendu des anecdotes racontées par des gens ayant connu les deux sœurs en Malaisie. Lady Ravenscroft vivait là-bas avec son mari, et sa sœur, Dolly, vint séjourner chez eux. Il y eut un accident avec un enfant là-bas, et les gens pensèrent qu'il n'était pas impossible que Dolly en ait été partiellement responsable. On ne put rien établir avec certitude, mais j'ai cru comprendre que le mari de Molly ramena sa belle-sœur en Angleterre, où elle dut à nouveau être internée dans un établissement psychiatrique. « Oui, je trouve que c'est un très bon compte-rendu de ce qui s'est passé, quoiqu'il n'y ait rien là-dedans, bien sûr que je sache de ma propre science. Non, en revanche, il y a d'autres choses, je crois, que vous avez su pour en avoir été le témoin. Quand bien même ce serait le cas, je ne verrais aucune raison de me les remémorer aujourd'hui. Ne vaut-il pas mieux laisser le passé en paix, lorsqu'à tout le moins il est accepté ? D'autres événements auraient pu se produire ce jour-là à Overcliff. » Il s'est peut-être agi d'un double suicide, mais ça aurait pu être un meurtre, ça aurait pu être bien d'autres choses encore. On vous a raconté ce qui s'était passé, mais à certaines petites phrases que vous venez de prononcer, je crois comprendre que vous savez ce qui est arrivé ce jour-là, et je pense que vous savez ce qui était sans doute arrivé, ou ce qui avait commencé de se tramer, dirons-nous, quelque temps auparavant. Au moment où il a été décidé que Célia partirait pour la Suisse, alors que vous étiez encore à Overcliff. Je ne vous poserai qu'une question. J'aimerais savoir quelle réponse vous y ferez. Il ne s'agit pas d'obtenir un renseignement. Ma question vise à savoir ce que vous pensez. Quels étaient les sentiments du général Ravenscroft à l'égard de ses deux sœurs, de ses jumelles ? Je vois ce que vous voulez dire. Pour la première fois, l'attitude de Mademoiselle Moura se modifia quelque peu. La dame ne se tenait plus sur ses gardes. Elle avança le buste et s'adressa à Poirot presque comme si cela lui apportait un véritable soulagement. « Jeune fille, elles étaient toutes deux très belles, » expliqua-t-elle. J'ai entendu quantité de gens l'affirmer. Le général Ravenscroft commença par s'éprendre de Dolly. Elle avait beau être un peu déséquilibrée, c'était une jeune femme extrêmement attirante. Au sens sexuel du terme. Ils sont toka, réellement, comme on disait à l'époque, et l'on envisageait même des fiançailles rapides, mais très vite, les sentiments du jeune homme évoluèrent. J'ignore s'il découvrit chez elle quelques caractéristiques qui lui mit la puce à l'oreille. Peut-être décela-t-il les prémices de la démence, les dangers qui s'y rattachaient. Ses attentions se reportèrent alors sur l'autre sœur. Il ne tarda pas à succomber à son charme plus subtil, à sa maturité, et ce jusqu'à en tomber amoureux fou et à l'épouser. Vous voulez donc dire, en somme, qu'il les aima toutes les deux. Pas en même temps, mais que dans les deux cas, il s'agissait d'un réel amour. Oh oui, le général vouait un profond attachement à Molly. Il avait foi en elle, et elle en lui. C'était lui-même un homme doté d'un grand charme, d'une infinie séduction. « Pardonnez-moi, glissa Poirot, mais vous étiez vous-même éprise du général, n'est-ce pas ?»« Vous osez me dire une chose pareille à moi ?»«
Oui, j'ose vous dire cela. Je ne suis pas en train d'insinuer que vous avez entretenu une liaison avec lui, non, rien de tel. Je suis simplement en train de dire que vous l'aimiez. »
En effet, reconnut Zélie Moura, je l'aimais. Et d'une certaine façon, je l'aime encore. Il n'y a rien là dont j'ai à rougir. Le général me faisait pleinement confiance, mais il n'était absolument pas épris de moi. On peut aimer, servir, et cependant être heureux. Je ne demandais pas plus que ce que j'avais. Confiance, sympathie, respect de ma personnalité. Aussi vous êtes-vous mis en quatre pour lui venir en aide lors d'une période terriblement critique de sa vie, compléta Poirot. Il est des faits que vous ne souhaitez pas me révéler. Il en est d'autres, en revanche, que je vais, moi, vous communiquer. Des faits que je tiens de diverses sources qui m'ont dispensé des renseignements. Avant de venir vous voir, j'ai entendu d'autres personnes, d'autres gens ayant connu non seulement Lady Ravenscroft, Molly, mais également Dolly. Je connais donc un peu la vie de Dolly, le drame de sa vie, le chagrin, la souffrance et aussi la haine. Le mauvais penchant, sans doute, l'amour de la destruction qui peut se transmettre au sein d'une famille. Si elle aimait l'homme auquel elle avait été quasiment fiancée, elle dut, lorsqu'il épousa sa sœur, éprouver de la haine à l'égard de cette dernière. Peut-être ne lui pardonna-t-elle jamais vraiment? Mais qu'en était-il de Molly Ravenscroft? Détestait-elle sa sœur? La haïssait-elle? Oh non, répondit Zélie Moura. Elle l'aimait tendrement. Elle l'aimait d'un amour très profond et protecteur. Je suis sûr de ça. C'était toujours elle qui demandait à faire venir sa sœur chez eux. Elle avait envie de l'arracher à sa souffrance, au danger aussi, car Dolly rechutait fréquemment dans des crises de frénésie assez redoutables. Cela effrayait Lady Ravenscroft parfois. Voilà, vous en savez assez. Vous avez déjà mentionné cette curieuse répugnance envers les enfants dont souffrait Dolly. Vous voulez dire qu'elle détestait Célia? Non, pas Célia, non. L'autre enfant, Edward, le plus jeune. Edward avait failli être victime d'accident à deux reprises. La première fois, lors de je ne sais quelle manœuvre en voiture, et la deuxième, d'une violente crise de nerfs. Je sais que Molly fut soulagée de voir Edward repartir pour l'école. Il était tout jeune, souvenez-vous, bien plus jeune que Célia. Il n'avait guère que 8 ou 9 ans et fréquentait l'école primaire. Il était vulnérable. Molly craignait pour la sécurité de son fils. « Oui, répondit Poirot, je comprends bien. » À présent, si vous le permettez, je vais parler perruque, du port de perruque. 4 perruques. Cela fait vraiment beaucoup à la fois dans la garde-robe d'une femme. Je sais comment elles étaient, comment elles se présentaient. Je sais que lorsqu'il en fallut de supplémentaires, une jeune Française se rendit à la boutique à Londres, les décrivit et les commanda. Il fut question d'un chien également, un chien qui partit en promenade le jour du drame avec le général Ravenscroft et son épouse. Auparavant, quelque temps auparavant, le même chien avait mordu sa maîtresse, Molly Ravenscroft. « Les chiens sont comme ça, » enchaîna Zélie Moura. On ne peut jamais leur faire complètement confiance. « Oui, je savais cela. Je vais aussi vous dire ce qui, selon moi, se passa ce jour-là, et ce qui se passa auparavant, quelque temps plus tôt. Et si je refuse de vous écouter, vous ne refuserez pas. Vous pourrez dire que ce que je me suis imaginé est faux. Oui, vous pourrez même dire cela, mais je ne crois pas que vous le ferez. Ce que je suis en train d'essayer de vous faire comprendre, et je le pense de tout mon cœur, c'est qu'en l'occurrence, la vérité est devenue nécessaire. Il n'est pas simplement question d'idées extravagantes, ni d'interrogations. Il est question d'une fille et d'un garçon qui s'aiment et qui ont peur de l'avenir à cause de ce qui a pu se passer et de ce qui risque de se transmettre de père ou mère en fille. C'est à la jeune fille, à Célia que je pense. Une jeune fille frondeuse, pleine de caractère, sans doute difficile à vivre, mais qui a la tête bien faite, bon esprit, une aptitude au bonheur, une bonne trempe, mais à qui, la vérité, il y a des gens comme cela, est nécessaire. Parce que ces gens sont capables d'affronter la vérité sans faiblir. Ils sont capables de l'affronter avec cette acceptation courageuse qu'il faut avoir dans l'existence pour que la vie soit vivable. Et lui, le garçon qu'aime cette jeune fille, souhaite cela pour elle aussi. « Accepterez-vous de m'écouter ?»« Oui, » répondit Zélie Moura. « Je vous écoute. Vous comprenez bien des choses, je crois, et je crois aussi que vous en savez plus que je ne pouvais l'imaginer. Parlez. Je vous écoute. »